Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Il s'appelle Timothy Snyder, il est historien à l'université de Yale et publie une tribune citée par Stéphane Foucard dans Le Monde. Pour lui, ce qui est en train de se passer aux États-Unis porte un nom précis. C'est un coup d'État. Mais un coup d'État d'un nouveau genre. Le premier coup d'État numérique. Traditionnellement, si on peut dire, un coup d'État qui se définit par le renversement d'un régime en place et la prise du pouvoir par la force, ça commence par la prise des centres de pouvoir, des aéroports, des arsenaux, du palais présidentiel et surtout des moyens de communication qui se trouvent dans un endroit physique précis, généralement le bâtiment de la radio-télévision. Or ici, ce sont 12 de jeunes geeks qui vont de bureau fédéral en bureau fédéral, où ils installent des lits et passent leur journée et leur nuit à siphonner des données, les exploiter, les entraîner. Ils établissent ainsi des listes d'employés à licencier et interrompent tous les paiements et financements du gouvernement. Ils censurent et contrôlent le savoir et la science également. Prendre le pouvoir aujourd'hui, c'est donc prendre le contrôle des ordinateurs et accéder aux données. Cette violente prise de pouvoir est non seulement illégale, poursuit l'historien de Yale, mais elle viole les droits fondamentaux et sape les fondements de la démocratie. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, on parle de ça justement, de coup d'État, mais à l'ancienne, et l'effet que ça fait à ceux qui les ont vécus, de récits par Alice Durieux.
Je m'appelle Wixi Sepulveda, j'ai 74 ans. J'habite à Strasbourg, je suis née à Santiago du Chili. Et quand j'avais 23 ans, j'ai vécu les coups d'État de Pinochet du 11 septembre 1973, date fatidique. Alors, d'un côté, il y avait le président Allende qui avait été élu démocratiquement par tous les Chiliens. Il était marxiste, socialiste marxiste. Et de l'autre côté, il y avait Pinochet, qui était général en chef de l'armée, avec ses collègues de l'armée de l'air, les carabineros, qui donnent un coup d'État pour tuer la démocratie, on peut dire. À l'époque, j'étais militante d'un parti de gauche, qui s'appelait le MIR, Movimiento de la Izquierda Revolucionaire. On soutenait Allende, mais il fallait se battre, faire la révolution par les armes, en fait. Et on recevait des consignes par une radio qui s'appelait Radio Magallanes. Et cette radio, je l'allumais tous les jours entre 5 et 6 heures du matin. Et là, je savais ce qui s'est passé. Mais ce jour-là, le 11 septembre, je me réveillais à 5 heures. Et je mets la radio tout de suite. Et pas de radio. Il n'y avait rien. Tout de suite, j'ai compris que c'était les jours du coup d'État. Parce qu'on savait qu'il y aurait un coup d'État. Parce que les militaires, ils avaient essayé avant de faire un coup d'État. Qu'ils avaient raté au mois de juin. Et on savait qu'il y avait les militaires qui étaient en train de s'organiser. Il y avait des mouvements de troupes. Il y avait des gens de bouche à oreille, on savait ça. Je savais donc que s'il n'y avait rien, c'est parce que la radio avait été prise par le militaire. Après, à 7 heures, la radio il a pu transmettre d'une autre adresse et il a donné l'alarme qu'il y avait un soulèvement de militaires. Ce jour-là, j'avais mon examen de chant, chorale, et je devais traverser tout Santiago pour arriver à la petite école primaire où je devais passer l'examen avec les élèves. Et je commence à me préparer. Et alors, ma mère a compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Elle s'est mise devant la porte, comme ça. Elle a ouvert les bras. Vous ne sortez pas, si vous voyez avec ma mère. Non, vous ne sortez pas d'ici. Elle ne m'a pas laissé sortir. Elle avait les yeux qui sortaient de son visage tellement elle était terrifiée. Moi, je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas contrariée. Je n'ai pas pu sortir de chez moi. Puis on est resté là, enfermé. Et le problème, c'est que ma sœur, elle était déjà partie à 8 heures. problème, c'est ça. Et ma mère a commencé à avoir peur. Ce jour-là, à l'appartement, il y avait ma mère, moi, ma sœur la plus jeune et la petite fille, qui était la fille de ma sœur, qui était partie à l'école de théâtre, au conservatoire. On savait que le conservatoire, c'était... Tous les artistes, c'était des gauches, vous voyez. On savait qu'ils allaient être fouillés et envahis par les militaires. On ne savait pas quoi faire. On essayait de calmer ma maman, parce qu'on la sentait qu'elle était vraiment des fois hors d'elle. Et il y avait la petite fille qui courait dans tous les sens. C'était un bébé qui marchait et qui courait et on ne pouvait pas l'arrêter. On ne pouvait pas. À 10h, on a entendu les derniers discours d'Allende. C'était un très beau discours. Il dit, c'est sans doute la dernière fois que je m'adresse à vous. Mes mots ne sont pas amers, mais plutôt déçus. Qu'ils soient le châtiment de ceux qui ont trahi leur serment, soldats du Chili. L'histoire les jugera. Le peuple doit se défendre et non se sacrifier. Le peuple ne doit pas se laisser persécuter ou réduire en esclavage. Mais il ne faut pas non plus qu'il se laisse humilier. Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs.
Viva Chile, vive el pueblo, viva los trabajadores.
C'était beau ce qu'il a dit. Nous nous sommes dit, c'est fini. En fait, il nous disait de ne pas résister, de sauver notre vie. C'est ça qu'il nous dit. Pas nous soumettre, que la lutte va continuer. Mais ce jour-là, il fallait se protéger. Donc, on est désespérés. Et personnellement, moi j'attendais des nouvelles de mes camarades. Qu'est-ce qu'on allait faire? Si on allait s'organiser, si on allait faire quelque chose. Mais je savais que pour des raisons de sécurité, ils ne pouvaient pas téléphoner. Si jamais le téléphone était sur écoute. Et la peur s'installe. Ensuite, on est allé avec ma mère acheter quelque chose, du pain. Et donc, on allait dans la rue, c'était derrière l'appartement. Et les gens nous criaient, n'allez pas dans ce sens, n'allez pas vers la moneda, la maison des présidents du Chili, de Santiago du Chili. Parce que c'est la guerre, enfin, les militaires, ils sont en train de tirer. Nous, on habitait juste là, à 4 rues de la moneda. Et ma mère, qui était terrifiée, elle courait dans la rue comme une folle, quoi. C'était affreux de la voir. Mais on a pu rentrer à la maison, sain et sauf. Ensuite, à midi, les militaires ont donné un ultimatum à Allende de se rendre, sinon la moneda sera bombardée. Allende n'a pas voulu se rendre et ils ont commencé à bombarder. Et le bombardement a dû durer une heure et demie. Nous, on regardait par la fenêtre les avions. Mais on était par terre, au cas où on voyait l'avion passer devant notre maison. Et vous savez que c'est un avion de guerre, vous le reconnaissez. Et la vitesse aussi, vous la sentez. Et après, on entendait les bombes qui tombaient. On entendait tout ça. Alors, Allende, il n'a obligé personne à rester. Tous ceux qui voulaient sortir de la moneda, il pouvait sortir. Et lui, il est resté avec sa garde personnelle à faire face au bombardement. À la mi-journée, à midi, midi et demi, ils ont donné l'information que le président Allende s'était suicidé. Ça, c'était l'information qu'ont donné les militaires, qu'il s'était suicidé. On s'est dit, c'est fini. Je ne sais même pas comment l'exprimer. On avait peur, mais on avait une peur terrible. Je me souviens du visage de ma mère. Elle était terrorisée. C'était terrible parce que quand la mère a peur, il y a tout qui se dégringole. Vous voyez, même si vous êtes majeure, j'avais 23 ans. Ma sœur plus jeune, elle avait 22 ans. Et ma sœur, 25 ans, elle avait ma sœur qui faisait du théâtre. Nous, on ne savait pas quoi faire. Ils ne savaient pas quoi lui dire. On était plutôt en silence, nous trois, avec la petite fille qui courait dans tous les sens. Et on regardait la télé, quoi. Et on attendait des informations. On ne savait pas ce qui se passait non plus dans la rue. Vous voyez, on entendait, mais on ne savait pas. Il y a eu une petite résistance, mais rien du tout par rapport à toutes les armes qu'eux, ils avaient, la droite et l'armée. C'était un jour horrible. Dans l'après-midi de la première journée, c'est 11 septembre, Pinochet dictait ses consignes par radio et télévision. Les radios, toutes les radios avaient été déjà prises par les militaires, toutes les radios. Et toutes les heures, il donnait des consignes. Los bandos, ça s'appelait los bandos militares. Si on pouvait sortir dans la rue, si on pouvait pas, jusqu'à quelle heure, et tout ça. Et il déclare la guerre au Chili. Chili était en état de guerre, sans ennemi, parce que nous, on n'avait pas d'armes. C'est ça le paradoxe, vous voyez. Et état de guerre, ça veut dire qu'ils ont le droit de tirer, d'assassiner, de sortir les gens de chez eux, de fouiller les maisons, ils ont tous les droits. On est resté 3 jours, je crois, enfermés, 3 jours. Dans les informations, ils ont dit que la population pouvait déjà commencer à mettre des drapeaux chiliens à la fenêtre pour faire croire au monde entier que les gens sont contents avec qu'ils soutiennent le coup d'État. Et on a la rage, on a la haine à ce moment-là, parce qu'on doit faire des choses qu'on est contre. Et on a mis les drapeaux à la fenêtre pour ne pas être fiché comme des gauches. C'est humiliant. Ça me dégoûte. À ce moment-là, avec la peur, tout ce qu'on arrive à faire et à penser, comment se protéger pour la suite, pour ce qui va venir après. Il ne fallait pas parler, il ne fallait pas se dire de gauche, sauf avec les camarades qu'on se connaissait. Quand Alain était président, on était fiers d'être gauche, on était fiers de sortir dans la rue, de le soutenir, et on parlait à voix haute dans la rue de nos convictions, de ce qu'on croyait. Et à partir de ce jour-là, vous devez vous taire, baisser la tête, et c'est l'humiliation. L'humiliation. Ce jour-là, Pinochet, un de ses bandos, un de ses ordres, c'était que la littérature marxiste était interdite. C'était interdit d'avoir chez soi de la littérature, comment est-ce qu'il l'a nommée, subversive. La littérature subversive. Et moi, j'avais des livres à brûler, quoi. On en avait beaucoup. On avait la littérature de gauche, hein, Lénine, Marx, tout ça. On avait tous les discours de Fidel Castro. Il fallait brûler tout ça. Et on a passé un bon moment de l'après-midi à faire ça. Il fallait nettoyer de tout ce qui est livre compromettant, magazine, documents. Brûler un livre, vous savez la sensation que vous avez quand vous brûlez un livre, c'est terrible, c'est comme si vous tuez quelqu'un, quoi. Et comme mes sœurs, elles étaient dans le Parti communiste, ils avaient une sorte d'uniforme. Et ben, on a commencé à la découper en petits morceaux. Et ma sœur l'a cachée derrière le frigo qui était à l'entrée. Et l'autre, on l'a coupée et on l'a jetée par l'incinérateur. Et on avait un incinérateur dans le bâtiment. Mais tout ça avec nervosité, vous voyez, on était énervés. Si je touchais ma sœur, elle sursautait comme ça. Parce que c'était la panique, la peur. On était terrorisés. Et ma sœur, elle est rentrée à 18h. Elle l'avait attendue toute la journée. Quand on a ouvert la porte, ma mère, elle a failli tomber dans les pommes parce que ma mère ne savait pas où elle était, en fait. C'était l'angoisse. Quand elle est rentrée, elle a pris sa petite fille dans les bras. Elle s'est mise à pleurer. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas parlé. C'est les jours d'après et maintenant qu'elle dit qu'elle avait été enfermée et que tous les camarades et les étudiants de musique, ils avaient été enfermés dans le conservatoire. À la fin du premier jour, je ne sais même pas à quelle heure on s'est couché. Je ne sais pas si on a mangé. On fumait et c'était tout. On savait juste que la démocratie, c'était fini. On ne pouvait pas savoir de quoi serait fait le lendemain. Ces trois jours, les 11, 12, 13, tous nos rêves sont tombés. Comme un volcan qui vous tombe dessus, quoi. Et qui vous brûle. Tout ce qu'on croyait, c'était fini. Ma vie a basculé le 11 septembre. Et 2 ans après, j'ai dû quitter le Chili et m'exiler. Tous les camarades commencent à tomber en prison, tous. C'était impossible de rester dans un pays en dictature comme ça. La dictature est restée 18 ans. Je voulais faire tant de choses. Je voulais chanter, je voulais jouer à des instruments, je voulais enseigner tout ça. Mais je savais que je ne pouvais plus le faire.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Zozanne, j'ai 35 ans. Je suis née à Paris et ma mère est française mais d'origine italienne et mon père est né en Turquie. Moi, j'ai juste la nationalité française. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, il y a eu une tentative de coup d'État en Turquie et plus spécifiquement à Istanbul, qui était la ville où je vivais depuis un an à l'époque. C'était un vendredi soir. Ce soir-là, on s'est d'abord retrouvés dans un premier bar dans le quartier autour de la place Taksim. Une amie turque, moi, et 3 amis français-françaises. Assez rapidement, il y avait plein de rumeurs qui couraient sur soit un coup d'État en cours, soit on ne savait pas trop quoi, mais le fait que les ponts étaient bloqués. Et on essayait de trouver des informations sur des sites... d'informations en turc, en français, en anglais, on ne trouvait pas trop. Et je me rappelle qu'un ami français est tombé sur le Dauphiné libéré. À ce moment-là, nous, c'est la seule source d'information qui indiquait qu'un coup d'État était en cours en Turquie. On est sorti du bar, je ne me rappelle plus exactement, mais je pense qu'il devait être autour de minuit, minuit et demi, disons. Et on sort dans la rue. À ce moment-là, on était 5. On décide de rester ensemble pour le reste de la soirée. On se dit quand même, bon, là, il y a un coup d'État qui est en cours. On ne comprend pas trop ce qui est en train de se passer. Quand même, on se dit, on va peut-être éviter de parler français ou anglais dans la rue. On va peut-être parler turc, mais le moins possible pour pas qu'on entende trop nos accents français quand on parle turc. On va plutôt rester silencieux parce que... quand même, ces moments de coup d'État et de déstabilisation politique, on se dit ça peut quand même être des moments où on a envie de s'attaquer à des occidentaux, occidentales, et malgré nous, c'est ce qu'on représente, quoi. Et on était parmi les seuls occidentaux dans la rue à essayer de rentrer chez soi ce soir-là, parce que je pense que les touristes, ça faisait longtemps qu'ils étaient rentrés dans leurs hôtels. Mais par ailleurs, en fait... les rues étaient extrêmement silencieuses. Il y avait énormément de gens dans les rues, des gens qui cherchaient des transports en commun pour pouvoir rentrer chez elles et eux. Et là, c'était très silencieux et très grave, en fait. Et on a traversé la place Taksim pour aller chez les amis qui nous accueillaient ce soir-là. C'est une place et des rues adjacentes qui, normalement, ne dorment jamais. À toute heure du jour et de la nuit, il y a du bruit, que ce soit... les vendeurs ambulants, à des moments les fêtards qui rentrent, à des moments les éboueurs qui nettoient la rue, etc. Et là, il y avait beaucoup de monde, mais très peu de bruit. Et c'était très marquant. En fait, on a compris très rapidement que c'était des militaires, parce que c'était, quand on a traversé la place Taksim, c'était des tanks qui s'installaient sur la place. Mais à ce moment-là, je ne comprends pas exactement ce qui est en train de se jouer. On est arrivé à l'appartement, on a essayé de regarder la télé sur une tablette pour essayer de comprendre ce qui se passait. Donc là, on est tombé sur une chaîne télé d'infos en continu, dont la présentatrice du journal télé était braquée par des militaires qui lui demandaient de lire un communiqué. Pas très clair et très compréhensible. Parce qu'en fait, c'est un mélange de plein de morceaux, d'idéologies, etc. Mais ça ne vient pas d'un groupe de l'opposition coréline politique très définie. En fait, pour schématiser, on a d'un côté le parti qui est au pouvoir depuis un peu plus d'une dizaine d'années, qui s'appelle l'AKP, et son dirigeant Erdogan, qui est président de la Turquie, qui ont mis en place un pouvoir de plus en plus autoritaire et qui, pour asseoir leur pouvoir, mènent des purges dans un peu tous les secteurs qui pourraient être des contre-pouvoirs. Et en Turquie, historiquement, l'armée, ça peut être une forme de contre-pouvoir. Donc l'armée subit des purges assez importantes. Et donc ce soir du 15 juillet 2016, il y a certains dirigeants de l'armée de l'air qui savaient qu'ils allaient bientôt être virés de leurs fonctions. Ils ont profité de l'occasion que les généraux n'étaient pas trop dans les parages pour faire cette tentative de coup d'État. Avant tout pour éviter d'être virés. Tout le monde disait qu'il faut peut-être avoir des stocks de nourriture, des stocks d'eau, de l'argent liquide disponible. Et en même temps, nous, on n'a pas fait tout ça. On s'est dit qu'on verrait bien. La soirée suit son cours. Il est 2h-3h du matin. Alors en fait, il faut s'imaginer, on est dans un appart au dernier étage d'un immeuble assez bas, de 4-5 étages. Il fait très chaud, parce qu'on est mi-juillet à Istanbul. On a laissé les fenêtres ouvertes de chaque côté pour faire passer un peu l'air. Et là, on entend des avions qui nous frôlent presque et qui passent comme ça en volant très bas. S'ensuit une sorte de bruit de mitraillette. Et là, je sais pas, avec une amie, on se regarde et on se dit qu'on est en train d'être bombardé. Et du coup, on s'attrape les mains et on part en courant se réfugier dans les escaliers de l'immeuble parce que c'est une zone sans fenêtre. Et du coup, je sais pas, on se dit qu'on va être protégé. Je crois qu'à ce moment-là, ce qui me vient en tête, c'est les histoires de ma grand-mère italienne qui me raconte quand elle se faisait bombarder par les Allemands en travaillant au champ pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, moi, j'imagine tout de suite qu'on est en train de se faire bombarder. Ça dure vraiment pas très longtemps. Et en fait, nos autres potes, ils sont restés plus calmes et ils étaient à moitié sur Twitter en même temps et ils nous disent directement « Mais non, non, c'est des avions qui dépassaient le mur du son ». Et donc le bruit, en fait, c'est cliquetis qui ressemblait à un bruit de mitraillette. En fait, finalement, c'était les fenêtres des appartements vides et fermés qui avaient explosé. C'était ça, ce bruit de verre cassé à la file, en fait, au fur et à mesure que la traînée de l'avion, elle passait, quoi. Je pense que c'était fait sciemment pour effrayer la population. Mais j'avoue que j'ai un peu eu du mal à le croire. Enfin, parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est juste une réaction très épidermique où en fait il y a un bruit qu'on n'a jamais entendu et qui du coup est hyper flippant et où par ailleurs à la télé il y a des images de ces mêmes avions qui sont en train de bombarder l'entrée du Parlement à Ankara, la capitale de la Turquie. Un autre moment marquant, c'est un moment où en fait les muezzins, les hommes qui chantent l'appel à la prière 5 fois par jour en haut des mosquées, ont commencé à chanter. Et je me suis tout de suite rendu compte que c'était pas un chant, le chant habituel d'appel à la prière. Et en fait, c'était un appel à sortir dans les rues pour défendre la démocratie et défendre le président Erdogan, qui était attaqué par cette tentative de coup d'État. Et suite à cet appel, effectivement, il y a eu des groupes d'hommes armés de bâtons qui passaient en bas de l'immeuble, qu'on voyait depuis les fenêtres ou depuis le balcon, qui passaient dans la rue pour aller défendre le régime en place. Cette espèce de fanatisme et de foule galvanisée pour le parti au pouvoir, c'est quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie. Donc ça a un côté assez flippant. Et en même temps, ils sortaient pour se battre contre les tanks que j'avais vus, par exemple, sur la place Taksim, juste avant de rentrer à l'appartement. Moi, d'un côté comme de l'autre, ça me paraît des sortes d'idéaux pour lesquels j'aurais pas envie de mourir. Mais pour lesquels, là, de fait, il y a des centaines de personnes qui sont mortes cette nuit-là pour ça. Et donc, je me sentais complètement concernée par ce qui se passait, même si j'étais ni pour un camp ni pour l'autre. Et à ce moment-là, j'avais acheté un téléphone d'occasion dont le numéro avait précédemment appartenu à une personne qui était membre de l'AKP, donc le parti au pouvoir. Et du coup, ce numéro de téléphone, il était inscrit dans les listes de diffusion des informations internes à l'AKP concernant Istanbul. Ça m'a permis de me rendre compte que l'AKP incitait ses partisans à sortir, se battre. Et en même temps, au fur et à mesure de la nuit, ces messages, ils ont diminué. Donc ça me permettait aussi de se rendre compte que progressivement, l'AKP reprenait le contrôle d'Istanbul. On a décidé d'aller se coucher vers peut-être 3-4 heures du matin, au moment où en fait on avait compris que la tentative de coup d'État était ratée. Et le lendemain matin, on a mis un peu de temps à réussir à sortir. Moi, j'avais pas spécialement envie de sortir tout de suite. J'avais besoin d'un peu digérer ce qui s'était passé dans la nuit, etc. Après, j'ai fait un petit tour dans la ville avec mes amis. Les principales traces qu'on voyait, c'était des impacts de balles dans certains murs et vitrines et beaucoup de fenêtres brisées par ces avions qui dépassaient le mur du son. C'était une tentative de coup d'État ratée. Et en même temps, c'était évident que cette tentative de coup d'État, ça allait permettre au pouvoir en place de devenir encore plus autoritaire qu'il n'était déjà. Dès le lendemain, on était au début d'une séquence politique qui allait peut-être être même pire que ce qu'on avait connu avant, parce que ça permettait au pouvoir en place de se durcir encore plus et d'aller encore plus loin dans la répression, dans les purges. Et c'est effectivement ce qui s'est passé.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo.
C'était Coup d'État, reportage d'Alice Durieux qui signe là son premier épisode pour Les Pieds sur Terre. Qu'elle soit bienvenue. Une émission réalisée par Eric Lancien. Merci à Leonardo Droguette, à Pablo, à Michel, à Catherine, à Maria ainsi qu'à Pauline et Thomas. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue Sébastien.
La voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.